France Musique. Musique et moi.
Boris Cyrulnik.
Priscille Lafitte, France Musique.
Je ne sais où se sont brisés les fils qui me rattachent à mon enfance. Comme tout le monde, ou presque, j'ai eu un père et une mère, un pot, un liquage, un hocher, et plus tard une bicyclette que, paraît-il, je n'enfourchais jamais sans pousser des hurlements de terreur à la seule idée qu'on allait vouloir relever ou même enlever les deux petites roues adjacentes qui m'assuraient ma stabilité. Comme tout le monde, j'ai tout oublié de mes premières années d'existence. Mon enfance fait partie de ces choses dont je sais que je ne sais pas grand-chose. Elle est derrière moi, pourtant elle est le sol sur lequel j'ai grandi. Elle m'a appartenu, quelle que soit ma ténacité, à affirmer qu'elle ne m'appartient plus. J'ai longtemps cherché à détourner et à masquer ces évidences, m'enfermant dans le statut inoffensif de l'orphelin, de l'inengendré, du fils de personne.
The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my.
Jonah, he lived in the whale. Oh, Jonah, he lived in the whale. For he made his home in that fish abdomen. Oh, Jonah, he lived in the whale. Little Moses was found in the stream. Little Moses was found in the stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter, she fished him, she says, from that stream. Papa do 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 do.
It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. They tell all the children the devil's a villain, but dang.
necessarily so. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no fault. Oh, I take that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years.
Sing it, Ellen.
Methuselah lived 900 years.
Oh,
but
say.
Who calls that living when no gallows given to no man? What's 900?
This sermon to show
ain't necessarily so.
Bonjour Boris Cyrulnik.
Bonjour Priscille.
Soyez le bienvenu dans Musique et moi ce matin. Vous êtes neuropsychiatre, psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Des âmes et des saisons, paru chez Odile Jacob, parcourt l'histoire de notre condition humaine. Ils sont de nos repères du masculin et du féminin qui ont fluctué au cours du temps et cherchent à établir le contrat social de domination ou d'entraide entre hommes et femmes depuis la préhistoire, en vous basant sur les travaux d'éthologie, de neurosciences, d'anthropologie. Les rapports entre hommes et femmes n'ont donc pas toujours été tels qu'ils sont aujourd'hui ou tels qu'ils seront demain. It ain't necessarily so, comme le chantent Ella Fitzgerald et Louis Armstrong en 1957, reprenant une mélodie de Porgy and Bess, de George Gershwin, George Ira Gershwin, qui, eux, faisaient référence aux histoires bibliques de David, de Jonas ou de Moïse. It ain't necessarily so, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Vous avez cité Georges Perec, Boris Cyrulnik, en introduction à cette émission, une lecture qui amène à s'interroger sur les premières sensations de l'enfance, sur le caractère déterminant ou pas, sur la construction de notre personnalité. Est-ce que vous avez été amené à remettre en question la mythologie de l'enfance ? It ain't necessarily so. Est-ce qu'on a besoin de cette mythologie pour se construire ?
On a besoin de pression réelle de la première écologie qui est le ventre de notre mère. Ça commence là. On est sculpté, on est façonné par les émotions de notre mère qu'on ressent dès ce moment-là. Mais on n'en a pas de mémoire, on n'en a pas de souvenir. On en a une trace qui constitue notre tempérament. Et comme le dit étonnamment bien Georges Perec, qui était scientifique, qui avait une formation scientifique, et il dit étonnamment bien, on n'en a pas de souvenir. Les souvenirs qu'on en fait sont des recompositions, c'est des mythes, c'est pas des mensonges, c'est des recompositions. Et les traces qu'on a et qui composent notre mémoire, on n'en a aucun souvenir. Et Georges Perec dit, en termes de tous les jours, ce que la neurobiologie décrit aujourd'hui.
Alors est-ce que les voix d'Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, est-ce que cette musique de George Gershwin, pour vous, ravive des souvenirs d'enfance ?
Alors oui, Gershwin, c'est les origines d'Europe centrale. Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, c'est une rencontre inattendue et pourtant ça donne quelque chose qu'on n'attendait pas, qui est merveilleux, qui est la rencontre entre Porgy and Bess et entre les Africains, les Afro-Américains. Donc c'est totalement improbable et pourtant ça fait une musique à déclencher les émotions.
Alors, en venant dans ce studio, Boris Cyrulnik, vous acceptez donc de vous prêter à cet exercice de musique. Et moi, nous allons chercher à comprendre en quoi les musiques peuvent influencer, déterminer, infléchir ou tout simplement condenser le cours d'une vie, d'un individu ou d'un groupe. Et si vous le voulez bien, nous allons appliquer cette grille d'analyse à vous, Boris Cyrulnik, ce matin, entendre les musiques qui vous ont accompagné et peut-être même constitué ou bâti. Dans la liste des musiques qui ont compté dans votre vie, la première dont vous vous souvenez, je crois, c'est celle-ci.
Des murs qui se lézardent, un escalier étroit, une pauvre mansarde, et me voilà chez moi. Un lit qui se gondole, une table de guingois, une lampe à pétrole, et me voilà chez moi. Mais le soir quand le cafard me pénètre, et que mon cœur est par trop malheureux, j'écarte les rideaux de ma fenêtre, et j'écarquille les yeux. L'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille, qui a tout ce qu'il lui faut, et même le superflu. L'autre côté de la rue, elle a de l'argent, une maison, des voitures, des draps en soie, des bijoux, des fourrures. L'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille. Si j'en avais le quart, je n'en demanderais pas plus. L'autre côté de la rue. Quand je sors de l'usine, il pleut ou il fait froid, mais je courbe l'échine et je rentre chez moi. Faut grimper cet étage, suivre un long corridor. Je n'ai plus de courage, je me couche et je dors. Mais le lendemain, faut que tout recommence. Je pars au travail dans le matin glacé. Alors je me dis qu'on a qui ont trop de chance et les autres pas assez. L'autre côté de la rue, y a une fille, une belle fille, pour qui toutes les misères seront toujours inconnues. L'autre côté de la rue, quand elle a froid, elle danse des nuits entières. Quand elle a chaud, elle s'en va en croisière. L'autre côté de la rue, y a une fille, une belle fille. Vivre un seul jour sa vie, je n'en demanderai pas plus. L'autre côté de la rue. On s'était vu trois fois, mais à la fin de la semaine, il est venu chez moi. Dans ma chambre au septième, au bout du corridor, il murmura, je t'aime. Moi j'ai dit, je t'adore. Il m'a comblé de baisers, de caresses. Je ne désire plus rien dans ses bras. Je vois ses yeux remplis de tendresse. Alors je me dis tout bas. L'autre côté de la rue, il y a une fille, une pauvre fille, qui ne connaît rien de l'amour, ni de ses joies éperdues. L'autre côté de la rue, elle peut garder son monsieur qu'elle déteste, ses beaux bijoux, tout son luxe et le reste. L'autre côté de la rue, il y a une fille, une pauvre fille, qui regarde souvent d'un air triste et perdu.
La voix de René Lebas dans cette chanson écrite pour elle en 1942 par Michel Elmer. Est-ce que c'est cette voix-ci dont vous avez le souvenir, Boris Cyrulnik ?
Alors j'avais un souvenir de la chanson, mais pas de cette voix, parce que c'est mon père qui chantait de l'autre côté de la rue, il y a une fille, et je trouvais ça merveilleux, j'avais 2 ans, et ça a sûrement été mes premières paroles, de l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille, j'ai pas changé d'avis, mais ça veut dire que mon père chantait tout ça tout le temps, et puis ensuite il y a eu la déclaration de guerre, il s'est engagé dans la Légion étrangère de l'armée française, et je l'ai plus revu, mais dans ma mémoire, il y a de l'autre côté de la rue, chanté par mon père.
Par votre père et pas par votre mère.
Oui. Dans ma mémoire, c'est lui qui chantait ça.
C'est lui qui chantait ça. Dans quelles circonstances ?
C'était, on était à Bordeaux. Le nazisme commençait à monter. L'ambiance commençait à devenir difficile. Mes parents étaient pauvres. J'ai le souvenir du tas de charbon au milieu de la... Il y avait 2 pièces. Une pièce où on mangeait, il y avait le tas de charbon au milieu. Une autre pièce où mon père était ébéniste, et quand il était ébéniste, il faisait des merveilles avec ses doigts, il chantait tout le temps, de l'autre côté de la rue. Donc c'est une chanson pour moi qui évoque des moments de bonheur au moment où le malheur se préparait.
Oui, parce que 1942, votre père, je crois, disparaît l'année suivante, donc c'est un souvenir fugace.
Oui, non, c'est un souvenir très clair. Mmh. Il a disparu pour moi, il a disparu quand il s'est engagé en 1939. Dès le début de l'hostilité, il s'est engagé dans la Légion étrangère. Ouais. Donc pour moi, j'avais plus de père, comme disait Georges Perec, dont le père s'est engagé dans la Légion étrangère et probablement il a connu mon père, possiblement il a connu mon père, dont la mère de Georges Perec porte le même nom que ma mère. Et dans les années d'après-guerre, on a été dans la même institution à Villard-de-Lans, on ne s'est jamais rencontrés. Le désespoir de ma vie.
Est-ce que vous savez que René Lebas, qui chantait là, avait elle-même perdu son père et sa sœur dans la rafle du Veldiv?
Mais non, je ne savais pas. Non. C'était une époque folle. Et dans cette époque folle, il y a des moments de beauté qui sont des moments de joie, des moments de bonheur. Et la musique incarne, matérialise ces moments de bonheur. Parce que quand on entend Gershwin et la Fitzgerald ou De l'autre côté de la rue, qui n'est pas une chanson terrible, mais pour moi c'est une chanson terrible parce que c'est une émotion intacte. Je ressens aujourd'hui, 82 ans après, probablement l'émotion que j'ai ressentie quand mon père chantait De l'autre côté de la rue. Et c'est une mémoire précise, c'est ce qui caractérise la mémoire des enfants et surtout la mémoire traumatique. C'est-à-dire qu'il y a un centre très précis entouré d'un halo imprécis, confus. Le centre est précis parce qu'il a une fonction adaptative. Mon père créait, en chantant, des moments de bonheur inoubliables. Et puis autour, c'était l'angoisse, c'était la brume, c'était l'incertitude, c'était le risque d'arrestation, le risque de on disait pas arrestation, on disait le risque de dénonciation. Je me disais, mais dénoncer, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Donc, au moment de la brume angoissante, il y avait des pépites de bonheur portées par des chansons.
Comment est-ce que vous portez cette musique aujourd'hui? Est-ce que vous aimez vous en souvenir? Est-ce que vous aimez la réécouter? Ou vous la gardez intacte à l'état de souvenir?
Alors, je l'écoute grâce à vous, parce que vous venez de la repasser. Mais dans la vie quotidienne, j'y pense. De temps en temps, je me dis, mais c'était comment a-t-il fait pour créer des moments de bonheur alors que la mort approchait, la guerre approchait. Donc j'y pense, mais je ne mets jamais cette musique. Je ne la chante pas, alors que je chante des tas de chansons de cette époque, mais pas celle-là. Celle-là, c'est la chanson de mon père. C'est lui qui a créé ces moments de bonheur avec cette chanson.
Thank you.
Miles Davis en 1949, donc avec le quintet de Tad Dameron, il jouait une improvisation sur Riftide de Coleman Hawkins. Nous voici donc dans l'après-guerre, dans un Paris avide de bebop. Est-ce que vous en avez eu des échos, enfant ?
Ah oui, pendant la guerre, le jazz était interdit. C'était les Zazous. Les Zazous, c'était des gens qui s'opposaient au gouvernement de Vichy. Ils étaient taquinés, enfermés. Certains ont été emprisonnés. Et quand la libération est arrivée, j'ai des souvenirs très clairs. J'étais à Lyon à cette époque-là. Et les Zazous se laissaient pousser les cheveux, avaient des vestes longues et dansaient le bebop, Miles Davis, en agitant le doigt comme en menace de l'index. Il paraît que c'était très élégant. Et Miles Davis a jalonné ma vie parce que je l'ai rencontré tout de suite en tant que libérateur. Je l'ai retrouvé ensuite à Venise, à l'Opéra de Venise, où sa photo côtoie celle de la Callas. Les grands musiciens, quel que soit le genre, sont des grands musiciens. Et je l'ai retrouvé ensuite à Château-Vallon parce que le jazz, dont j'étais le président pendant quelques années, et le jazz s'était engourdi pendant quelques années. Et c'est Miles Davis qui l'a dépoussiéré, qui l'a fait revivre. Et là, les gens, en quelques années, avaient perdu la culture jazz où on siffle, on applaudit. Quand quelqu'un fait une bonne tirade, on tape des pieds, on l'applaudit. Et à un moment, Miles Davis fait une très belle tirade et la salle reste engourdie. Et il a jeté sa trompette, il est parti, il a fallu chercher le supplier de revenir. Et il a bien voulu finir. Et donc, il a jalonné ma vie.
Et est-ce que le jazz aussi a jalonné votre vie? Le jazz en tant qu'improvisation, en tant qu'ouverture du champ des possibles, comme quelque chose qui ouvre les carcans?
Alors, le jazz, encore aujourd'hui, quand vous avez passé tout à l'heure Louis Armstrong, qui est quand même assez classique, mais j'éprouve quand même un plaisir physique. Et là, Fitzgerald, c'est un plaisir physique. Comment ils font, ces gens-là? C'est-à-dire que c'est étonnant, le pouvoir de la musique d'entrer dans mon corps, pas seulement dans ma tête, ils entrent dans mon corps. Et Miles Davis l'a fait, il a jalonné ma biographie. Et aujourd'hui encore, quand j'entends ce jazz-là, parce que je décroche un peu pour le jazz moderne, mais quand j'entends ce jazz-là, il réveille des sensations que j'ai éprouvées toute ma vie.
Est-ce que vous arrivez à définir ces sensations-là?
Alors, je pense que c'est une forme d'érotisme. Par exemple, pourquoi est-ce que la Callas me donne la chair de poule? C'est pas la grippe. Si elle me donne la chair de poule, c'est parce qu'il y a dans sa voix quelque chose d'érotique. Et je crois que c'est les vibratos de sa voix. Vous savez, comme les crooners sont obligés d'avoir une voix pleine de basses, de graves. Chaban Delmas, qui avait une voix aiguë, sa carrière était abîmé par sa voix aiguë. Il prenait des cours pour avoir une voix un peu plus grave. Et la Callas, qui n'a pas la voix la plus parfaite, a la voix la plus érotique. Parce que même dans les contrutes, comment elle fait, ça vibre un peu, il y a une émotion qui passe. Même dans les contrutes, elle est un peu crooner. C'est...
Thank you.
Maria Callas, bien évidemment, accompagnée par le chœur et l'orchestre de la Scala de Milan, dirigé par Tullio Serafine en 1954.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik est l'invité de Musique et moi ce matin, et vous avez tenu à entendre la voix de Maria Callas. Est-ce que ce timbre dit tout? Est-ce que vous y entendez les fêlures de Maria Callas?
Je les entends, je les aime, parce que justement, elle paraît encore plus humaine. Avec, il y a des voix plus parfaites que la sienne, hein, qui sont plus cristallines, plus précises, mais moins humaines. Elle, justement, dans ses vibratos, elle est humaine. Et là, on parlait de mémoire tout à l'heure avec Georges Perec, et bien là, dans cette musique-là, on attend la note. On l'espère, comme disent les Espagnols, on espère la note. Et si la note qu'elle donne correspond à ce qui est en nous, la rencontre, je parlais d'érotisme tout à l'heure, la rencontre est parfaite. Donc sa voix n'est pas la plus belle de voix d'opéra, mais c'est la plus émouvante, et encore aujourd'hui.
Et vous l'associez à quoi? Un souvenir en particulier?
C'est un processus de mémoire, c'est-à-dire dans la mémoire, il n'y a pas que des souvenirs, il y a des traces aussi. Les souvenirs, c'est quand on va chercher dans son passé des images, des mots, des sons, dont on se fait une représentation. J'ai entendu mon père chanter de l'autre côté de la rue, j'entends régulièrement la Callas, elle me donne toujours le même plaisir. Ça, c'est les souvenirs, je vais les chercher. En revanche, il y a des traces. Je ne sais pas pourquoi je suis ému par la Callas. Pour vous dire que c'est les failles de sa voix qui la rendent séduisante, qui la rendent émouvante, il a fallu que je réfléchisse. Mais c'est une enquête qui m'a permis de proposer cette phrase. En fait, j'attends la Callas, pas une autre. J'attends son imperfection vocale pour éprouver une émotion de tendresse avec elle. Donc vous voyez que le mot érotisme, c'est exactement ça.
Donc sa voix n'est pas liée à un événement particulier de votre vie. Elle ne vous ramène pas à un point de...
Si, mais ça reste entre nous. C'est ma femme qui me l'a fait rencontrer. Donc...
Donc, d'où l'érotisme.
Voilà, d'où, je ne connaissais pas la Callas parce que ma femme a été bien élevée, mais pas moi, j'ai eu la chance de ne pas être élevée. Mais ma femme, elle a été bien élevée. Si bien que quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a fait rencontrer la Callas. Et j'ai appris à aimer ma femme et la Callas.
Être bien élevée musicalement, vous voulez dire?
Elle a une connaissance musicale, une connaissance artistique classique stupéfiante. Moi, j'ai une connaissance de gosse de prolo, hein. La chanson de la rue, que j'aime bien. Mais c'est ensuite, tout ce qui est classique, je l'ai appris en faisant semblant de me cultiver. Mais mes premières empreintes, c'est de l'autre côté de la rue. Mes premières empreintes, c'est...
C'est le temps des cerises.
C'est le temps des cerises.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
C'est la mémoire de la Commune de Paris que vous ravivez, Boris Cyrulnik, ce matin.
Mais oui. Quand j'étais enfant, on chantait cette chanson. Quand j'étais adolescent, plutôt, on chantait régulièrement le temps des cerises parce que c'était effectivement le massacre de la Commune. Dans la chanson, Yves Montand dit une goutte de sang. Un massacre qu'il transforme en goutte de sang. Parce qu'effectivement, après la nostalgie de la révolution perdue, il y a le rêve d'un retour. Il y avait une culture populaire qui a existé dans les années 50-60, une vraie culture populaire. Il y avait le TNP, le Théâtre National Populaire, où j'ai vu des quarantiers d'ouvriers d'Aubervilliers qui venaient entourer la place du Trocadéro pour regarder Gérard Philippe. Il y avait l'opéra de Katsu, il y avait des livres d'une vraie culture populaire au débatté, et le temps des cerises en faisait partie, avec la nostalgie de la révolution perdue, mais le rêve d'amour qui va revenir.
On aurait pu entendre ensemble une version enregistrée par Juliette Gréco en 2004 à l'Olympia, où elle présente ainsi cette chanson. C'est une chanson d'amour et donc révolutionnaire, ou une chanson révolutionnaire et donc une chanson d'amour.
Mais c'est très bien dit, c'est très bien vu, parce que dans les sociétés où le mariage est traditionnel, les enfants se laissant marier continuent la loi du père ou du prêtre. Et alors que le mariage d'amour arrache, empêche la loi du père. Roméo et Juliette, c'est un mariage d'amour, c'est une tragédie familiale. L'amour, c'est la rencontre entre deux personnes, donc c'est forcément révolutionnaire.
Salomon Song.
Ihr seht den weisen Salomo, ihr wisst, was aus ihm wurd. Dem Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles eitel war. Wie groß und weiß war Salomon, und seht, da war es noch nicht Nacht,
Folgen schon die Weisheit hat ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr seid die schöne Kleopatra, ihr wisst, was aus ihr wurd. Zwei Kaiser fielen ihr zum Raub, da hat sie sich zu Tode gehurt und welkte hin und wurde Staub. Wie schön und groß war Babylon. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon, die Schönheit hatte sie so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr saht den kühnen Cäsar dann, ihr wisst, was aus ihm wurd. Der saß wie ein Gott auf nem Altar und wurde ermordet, wie er fuhrt, und zwar als er am größten war. Wie schrie der laut, auch du, mein Sohn. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon, die Kühnheit hat ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Und nun seht ihr McKeith und mich, Gott weiß, was aus uns wird. So groß war unsere Leidenschaft, wo haben wir uns hin verirrt, dass man ihn jetzt zum Galgen schafft. Da seht ihr unserer Sünde Lohn. Und seht, jetzt ist es noch nicht Nacht, da sieht die Welt die Folgen schon. Die Leidenschaft hat uns so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon.
Nous voici avec l'hôte Lénia qui chante cet opéra de Katsu, la chanson de Salomon. Vous avez vu le sage Salomon, vous savez ce qu'il est devenu. Pour cet homme, tout était clair comme le jour. Il maudit l'heure de sa naissance et vit que tout était vanité. Combien Salomon était grand et sage. Et voyez, il ne faisait pas encore nuit que le monde voyait déjà le résultat. C'est la sagesse qui l'a mené là. Envier celui qui en est dépourvu. Voilà la sagesse de cette chanson. Un renversement d'une incarnation biblique de la sagesse. Et il s'amuse aussi à faire les mêmes choses avec Cléopâtre, avec César. Est-ce que vous comprenez le nihilisme, la provocation dans cet opéra de Katsu ?
Alors, moi, j'aurais pas dit provocation, j'aurais dit bacchanal, c'est-à-dire que c'est le renversement des valeurs. Nous, peuple, on est privés de culture. Il y a une belle culture qui est la culture traditionnelle, c'est la culture des prêtres, la culture des aristocrates, qui est belle, c'est pas la nôtre. Donc on va renverser la valeur et on va se faire une culture qui sera l'opposé. Nous, on va avoir une culture populaire, on n'aura pas la culture des saints, on n'aura pas la culture des aristocrates. Et alors c'est ce que dit cette chanson. Les vertus de base sont aussi des formes artistiques. Il n'y a pas que l'art délicat des aristocrates, il y a aussi l'art populaire. Donc ça va très bien avec l'enchaînement de nos idées.
Dans quelles circonstances est-ce que vous avez entendu cette œuvre-là ? Vous vous souvenez ?
Oui, très très clairement. C'est que dans les années d'après-guerre, la France, un Français sur trois était communiste, parce que le nazisme avait poussé les Français, les Italiens, tous ceux qui s'étaient opposés au nazisme, avaient été poussés dans les bras du communisme avant d'ouvrir les yeux. Il y a eu quelques années d'embellie communiste.
Vous l'étiez aussi ?
Et moi aussi, bien sûr. Et c'était une belle culture populaire. C'est ensuite qu'elle s'est sclérosée, ou plutôt c'est ensuite qu'on a découvert qu'elle était sclérosée. Mais on était poussé, c'était la résistance, on était poussé dans les bras de la gauche pour affronter le nazisme. Et ça, ça faisait partie de la culture de gauche. L'opéra de Katsu faisait partie de cette culture-là, avec André Stil, avec des auteurs qui faisaient des tirages énormes que plus personne ne lit, mais qui faisaient des tirages faramineux. Les ouvriers étaient cultivés, ils avaient leurs 10 heures ou 12 heures de travail par jour, ils lisaient Émile Zola, ils débattaient et ils allaient écouter l'opéra de Katsu, et j'y étais avec eux.
Mais vous n'étiez pas ouvrier, vous, Boris Cyrulnik?
Oh, j'ai été, si, bien sûr, j'ai été laveur de carreaux, j'ai été vendeur de pantalons sur le marché aux puces d'Argenteuil, j'ai été maître nageur diplômé d'État. Si, bien sûr, j'ai été ouvrier.
Thank you.
Sergueï Prokofiev avait composé cette musique pour le film d'Eisenstein, Alexandre Nevsky, en 1938. Ici, l'orchestre national de l'URSS, dirigé par Evgeny Svetlanov, en 1962 et 68. Je crois que l'enregistrement est étalé entre ces deux dates. Larissa Avdeyeva et la mezzo-soprano qui chante cet air, le chant des morts. Est-ce que cet air vous a été transmis également par la culture communiste dont vous nous parliez à l'instant ?
Mais oui. Oui. On allait voir Einstein, on écoutait le chant des morts.
Vous avez chanté, vous, dans des chorales ou...
Oui, dans les colonies de vacances. Ça existait quand j'étais gamin. Ouais. Ou dans les institutions où j'étais, on chantait beaucoup, oui.
Vous chantiez quoi ? Quel répertoire ?
Alors, on chantait à bicyclette. Yves Montand était une de nos vedettes. Hein. Mmh. On chantait des chansons yiddish, qui étaient extrêmement belles. Ça se dépoussière, ça revient un peu. C'était très beau, très nostalgique. On chantait Sbrennt, Briderler, Sbrennt. C'est proche de l'allemand, vous l'avez reconnu. C'était à la fois un mélange d'angoisse, mais ça se transformait en poésie.
Est-ce que vous avez joué d'un instrument ?
J'ai joué un peu de. Je jouais très mal, mais avec beaucoup de plaisir, de l'harmonica.
C'est le trio Reissner, le siffleur et son chien.
France Musique. Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik est l'invité de Musique et moi et nous voilà plongés dans l'harmonica. Vous écoutiez ces musiques-là pour pouvoir apprendre ?
Ah oui, on écoutait, bien sûr, on s'identifiait beaucoup. C'était vraiment l'accordéon du pauvre. On pouvait pas s'acheter un accordéon, on admirait beaucoup. Alors une harmonica, c'était bon marché, et on pouvait donner un petit substitut d'accordéon. C'était charmant, c'est dommage que ça soit pas développé.
Est-ce que le fait d'avoir pratiqué le chant, ne serait-ce que dans des colonies de vacances, ou un petit peu d'harmonica, pensez que ça transforme un petit peu votre rapport au monde ?
Alors on pourrait supprimer la musique, on resterait vivant. On pourrait supprimer l'amour, on resterait vivant. On pourrait supprimer le langage. Mais dans quel état on serait ? Dans quel... Comment serait-on vivant ?
Donc ça maintient en vie, c'est ça ?
Alors non seulement ça maintient en vie, mais ça stimule le goût de vivre. Par exemple, on sait que les enfants préverbaux, quand on les élève dans un milieu musical, la sonorité musicale stimule leur lobe temporal gauche et ça les aide à façonner, à circuiter ce qui va devenir la zone du langage. Les bébés qui se développent dans un milieu musical parlent mieux et avant les bébés qui se développent dans un milieu sans musique. En plus, quand on fait jouer d'un instrument très simple, hein, taper dans les mains, un tambour, chanter en même temps, très vite, le lien se fait entre les enfants qui participent à un petit orchestre à la crèche ou à la maternelle. Et ces enfants-là apprennent à se socialiser parce qu'ils ont partagé un plaisir. Le fait d'avoir chanté ensemble, c'est partager un plaisir, c'est un lien affectif. Et ces enfants-là deviennent chacun sécurisant pour l'autre. On se connaît, on est bien ensemble, on est en familiarité. Et la musique facilite la socialisation. Donc je pense, et je sais que notre ministre actuel va le développer, en tout cas il l'a promis, la musique à l'école, à la maternelle, très tôt, et c'est pas du temps perdu, c'est pas de la distraction, c'est du circuitage, c'est de l'apprentissage à la condition humaine, c'est-à-dire la parole.
Thank you.
c'est la voix d'Angela Giorgio que nous entendons à l'instant. On parlait de ce que véhiculent les voix, en particulier féminines, qu'on entend ce matin. Où est-ce que vous classez Angela Giorgio ?
Alors, pour moi, la musique n'a pas qu'une fonction de transcendance. C'est-à-dire qu'il y a une musique qui nous élève. Hein. C'est ce qu'on dit habituellement, ce que je ressens. Mais quand on a des moments difficiles, et dans une biographie, il y a souvent des moments difficiles, personne n'y échappe. Et quand on a des moments difficiles, la musique et la voix de cette femme a une fonction de baume. C'est-à-dire que, au moment où ma femme et moi, on était dans une période très douloureuse, un accident de la vie, et cette voix-là, c'était un moment, un baume. On était côte à côte et on écoutait cette voix comme quelque chose, on était mieux. C'était vraiment une manière de s'apaiser, de s'élever. C'était pas une musique religieuse, c'était pas une transcendance. C'était vraiment, je me sens mieux avec elle. Je la connais pas, je l'écoute, elle chante, je me sens mieux.
Vous l'écoutez, elle est présente quasiment dans ce que vous dites.
Ah mais absolument. On dit que la musique est une transcendance, ce qui est vrai, mais c'est une caresse. Vous savez qu'on a rendu observable en neurobiologie que quand les femmes enceintes parlent, les hautes fréquences sont filmées par leur corps et surtout par le liquide amniotique, alors que les basses fréquences, au contraire, sont très bien transmises par le corps et le liquide amniotique, parce que c'est une fréquence élevée, alors que les hautes fréquences, c'est une toute petite vibration. Ce qui revient à dire que quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte.
Par les ondes.
Par les ondes. Donc, quand on vieillit, quand on entend la voix de quelqu'un qu'on aime, c'est une caresse. Et la caresse a un effet tranquillisant pour les bébés et pour les adultes quand ils sont en difficulté. C'est-à-dire que cette femme, quand elle chante, c'était une caresse. Pour nous, c'était très apaisant.
Blonde fille de Léda, j'ai fait quelques bruits dans le monde, Thésée, Arcas, etc. Et pourtant, ma nature est bonne, mais le moyen de résister, alors que Vénus la friponne, se complète en vous tourmenter. Se complète en vous tourmenter. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire cascade la vertu. Nous naissons toutes soucieuses de garder l'honneur de l'époux, mais des circonstances fâcheuses nous font mal tourner malgré nous. Prenez l'exemple de ma mère, quand elle avait le signe altier, qui, vous le savez, est mon père. Pouvait-elle se méfier? Pouvait-elle se méfier? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu? Fatal présent des cieux, il faut lutter contre les hommes
il faut lutter contre les dieux. Vous le voyez tous, moi je lutte. Je lutte, mais ça ne sert à rien, car si l'Olympe veut ma chute, un jour ou l'autre, il faudra bien.
Félicity Lott dans La Belle Hélène d'Offenbach, accompagnée par les musiciens du Louvre, dirigée par Marc Minkowski. C'est un air du faux-semblant, de la coquetterie, de la séduction. Boris Cyrulnik, est-ce que cet air vous rend heureux ?
Mais bien sûr, parce que cet air est arrivé à un moment heureux de ma vie. On avait un petit garçon qui avait 2 ans et on passait Offenbach, cet air-là, et il commençait à babiler, il commençait à parler quelques mots. Et alors, il faisait des mimiques et il chantait « Cascaus, Cascaus ». On se dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte, Cascaus ?» Et il avait entendu « Cascader la vertu ». Et dans son monde de bébé de 2 ans, c'était « Cascaus, Cascaus ». Et il nous posait des questions. Sauf que nous, on ne comprenait pas encore son langage.
Comment est-ce que vous écoutez la musique, d'ailleurs ? Vous l'écoutez Vous l'écoutez à la radio, vous écoutez des disques. Qu'est-ce que vous aimez écouter la musique en concert?
Alors,
ou à l'opéra?
À l'opéra, oui, parce que l'opéra, c'est pas seulement un moment d'opéra, c'est tout le contexte de l'opéra. C'est l'aventure, c'est la manière de vivre, de s'habiller, de voyager, d'aller à l'opéra. C'est un événement social, c'est un événement esthétique, un événement social. Donc si c'est un événement affectif aussi, c'est partager un moment de plaisir. Alors j'écoute pas la musique le matin, parce que j'ai la chance de me réveiller très tôt et de travailler de 5h à 1h du matin sans musique. En revanche, le soir, où c'est un peu moins ordonné, je me mets de la musique, une musique. Alors, ou bien je me mets France Musique, comme tout le monde, ou bien je me mets de temps en temps un air que j'aime bien, mais ça m'empêche de travailler. Alors que j'aime bien le fond sonore musical le soir, et de temps en temps, d'ailleurs, c'est tellement beau que j'arrête de travailler pour l'écouter. C'est pour ça que je ne mets pas de musique le matin. Quand j'étais jeune, les jeunes peuvent travailler en écoutant de la musique, mais plus on vieillit, plus on sélectionne les informations, et après un certain âge, il faut choisir. On écoute de la musique ou on travaille.
Thank you.
c'est l'ouverture du troisième acte de Tosca de Puccini, l'orchestre de l'Opéra Royal du Covent Garden, dirigé par Antonio Pappano. Je devine que vous aimez l'opéra, Boris Cyrulnik, c'est bien ça ?
Oui, j'aime beaucoup l'opéra parce que c'est un art populaire. C'est devenu un art coûteux aujourd'hui, mais c'est un art populaire. Encore aujourd'hui, quand on va en Italie, les gens dans la salle chantent en même temps que le chanteur d'opéra, ce que les Français ne prennent pas toujours bien, mais c'était la règle il n'y a pas longtemps encore. Il y a une ou deux générations, on parlait pendant l'opéra. Freud allait à l'opéra au point de vue parce qu'il voulait faire des relations. Il voulait montrer qu'il était cultivé, mais il comprenait rien, il n'entendait pas la musique. Il fait partie des 10% de gens pour qui la musique n'est pas agréable, c'est un bruit. Che Guevara était comme ça aussi. Et à Toulon, il y avait un général qui ne reconnaissait pas la Marseillaise. Donc c'était un de ses soldats qui lui faisait un signe pour lui dire « Attention, c'est la Marseillaise ». Alors là, il se mettait au garde-à-vous. Mais ça veut dire qu'il paraît une anomalie génétique. 10% d'entre nous n'entendent pas la musique. Ils entendent des sonorités, ils entendent des bruits, mais c'est pas de la musique. Et Freud était comme ça. Alors quand il allait à l'opéra, il s'intéressait au livret, mais pas du tout à la musique. Il n'avait pas l'érotisme de la musique. D'ailleurs, il avait fait enlever le piano qui était chez lui, parce qu'il disait « le piano m'empêche de me concentrer ». Donc, je vois que ça vous étonne.
Oui. J'essaie d'imaginer une vie sans pouvoir dissocier les notes ou analyser la musique. Oui,
alors, ce qui est mystérieux, c'est que beaucoup d'êtres vivants entendent la musique. Nous, êtres humains, on entend la musique avant les mots. Nos enfants entendent la prosodie, la musique des mots, avant le contenu des mots. Et on sait quelle langue ils vont parler quand, à l'âge de 10 mois, on voit comment ils jouent avec la sonorité des mots. On sait, tiens, ça sera un petit anglais. Tiens, ça sera un petit arabe. Tiens. Donc la musique précède la parole. D'ailleurs, on voit que chez les personnes âgées, c'est le contraire. On garde en mémoire la musique alors qu'on a oublié les mots depuis longtemps. Et qu'on voit que dans les maladies d'Alzheimer, par exemple, quand on passe la musique des 20 ans, ils ont perdu la mémoire des mots, et quand on leur passe la musique de leurs 20 ans, ils sont capables de finir la chanson avec les mots. C'est-à-dire que la musique est liée à la mémoire, est liée à l'affection, est liée à la stimulation cérébrale. Et beaucoup d'autres êtres vivants que les humains ont aussi probablement accès à une musique. C'est pas Offenbach, c'est pas la Tosca, mais pour eux c'est une musique quand même. Par exemple, les singes font une discrimination très nette entre la manière de crier. Le cri indique quelque chose qu'ils ne perçoivent pas. Donc c'est pas la parole. Mais c'est plus qu'un signal, puisque le signal déclenche la peur, la colère. Là, ça indique quelque chose qui va venir. Alors, il y a un cri qui indique l'aigle, le prédateur qui vient d'en haut, un autre cri qui indique le prédateur, le léopard qui vient de la branche, un autre cri qui indique le serpent qui vient du bas. Et le singe répond au cri, il ne répond pas au prédateur. Si le cri indique un aigle, le singe plonge vers le sol. Si le cri indique un serpent, il grimpe dans l'arbre. Donc on voit que dans le monde vivant, la musique, c'est beaucoup plus que la distraction.
Yeah.
C'est une scène qui représente la messe de Pâques dans le Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. C'est Georges Prêtre à la tête du chœur et de l'orchestre de la Scala de Milan. En quoi est-ce que cet opéra vériste raconte quelque chose du terme que vous aimez utiliser, la résilience, Boris Cyrulnik?
Parce que c'est la résurrection. On est mort, on a été mort, mais on peut se remettre à vivre. Alors Barbara le dit dans son langage à elle, avec sa musique à elle. Elle a subi l'inceste et elle dit « j'ai été morte, mais je me remets à vivre depuis que je chante ». C'est-à-dire que la musique probablement a déclenché en elle des choses qui fonctionnaient encore bien, le plaisir de vivre, le plaisir d'entendre de jolies sonorités. Elle avait un sens de la phrase, avec la phrase avec les mots, la phrase avec les gestes aussi. Il faut être gonflé pour faire les gestes qu'elle fait. Personne d'autre peut faire des gestes aussi maniérés, aussi exagérés, aussi beaux qu'elle. C'est-à-dire qu'elle peut se remettre à vivre parce qu'elle chante, donc l'air de la résurrection, que beaucoup de religions ont exploité, signifie, même après la mort, une autre vie est possible. Même le traumatisme, c'est un moment de mort. Le cerveau ne fonctionne plus. On est hébété, on souffre trop. Et pourtant, on peut se remettre à vivre comme Barbara, comme l'ère de la résurrection, l'ère de Pâques.
Vous vous intéressez donc au livret d'opéra, un peu comme Freud, tout
oui.
de même. Si je comprends ça pour être ironique. Vous souhaitez qu'on termine cette émission avec Yves Montand de nouveau, avec l'air à bicyclette qui vous reste en tête, que vous chantonnez, vous, dans le quotidien?
Alors, je le chantonnais quand j'étais au PCB, c'est-à-dire l'année préparatoire en médecine. Je devais avoir 18 ans et je cassais les pieds à tous mes voisins et à ma voisine parce que je lui chantais tout le temps à bicyclette, parce que ça signifiait que le banal peut être transformé en poésie grâce à la musique. C'est une forme de poésie. Alors, je lui chante, ça reste entre nous, ça vous le dirai pas à ma femme, hein. C'est-à-dire
elle
que...
Elle n'écoutera pas.
Je lui chantais à bicyclette, mais je sais pas, elle devait pas aimer Yves Montand ou elle devait pas aimer la poésie, mais moi je trouvais que c'était merveilleux parce que le banal est une grande richesse quand on sait l'observer. La bicyclette, se promener à bicyclette, c'est un événement plein de poésie. Se promener dans les rues de Paris, il faut savoir regarder, il faut savoir écouter, et à ce moment-là, le banal devient riche.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain.
quand on ira sur les chemins à bicyclette.
C'était la résurrection de certains souvenirs, si je comprends bien Bruce Cyrulnik ce matin, dans
Mais
Musique
oui,
et moi.
Et en plus,
avec Paulette.
Elle s'appelait Paulette. Faut être gonflé, mais j'avais 18 ans.
Et je trouve que cette chanson se rattache assez bien à votre livre « Des âmes et des saisons » paru chez Odile Jacob. Merci d'être venu dans Musique et moi ce matin. Merci à José Bernès pour la prise de son, Marie Grou à la réalisation, attachée de production, Marie Ferdinand. Passez un très beau dimanche sur France Musique et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.